La dernière fois, j'ai essayé donc en terminant de vous montrer les trois niveaux que nous donnait saint Thomas à propos de l'appréhension. Ce texte du commentaire de la De Trinitate. Vous n'avez pas la référence, hein? Exact? Non. C'est rien. Je voulais la chercher, puis je vous la donnerai. Parce que c'est intéressant à consulter et à voir. Je sais bien qu'il n'est pas traduit. Alors, on demandera à M. Balmès de le traduire. Parce que c'est un texte très très important. Un texte du saint Thomas jeune, qui commentant le De Trinitate de Boès, nous montre que de fait, il y a l'appréhension. Saint Thomas n'a pas pris l'appréhension à Boès, il l'a pris à Avicenne. Il l'a pris à Avicenne, il ne faut jamais l'oublier. Il l'a pris à Avicenne, Avicenne l'a pris d'Aristote, et à partir du De Anima. Et saint Thomas dit que l'appréhension étant une opération qui porte sur les indivisibles, a donc trois niveaux, le tout confus, l'acuité et la ratio actus, la raison d'acte. Alors il nous donne ça comme si ça allait de soi, d'une évidence. Alors il s'agit de comprendre pourquoi il y a ces trois niveaux et comment ce n'est pas contradictoire de dire qu'une opération élémentaire et indivisible puisse se donner selon trois niveaux différents. À première vue, ça semblerait contradictoire, puisque ce qui est indivisible est un. Comment une opération indivisible peut-elle être triple ? Vous voyez, c'est très intéressant ce passage, parce que ça montre que saint Thomas saisit l'appréhension en fonction du jugement. Ce qui est très important, ce que la scolastique n'a plus vu après. Et ceci, c'est parce que ce serait inintelligible autrement. Alors il faudrait affirmer que saint Thomas a affirmé quelque chose d'inintelligible. C'est un peu difficile de le dire. Je crois qu'habituellement, il dit ce qu'il comprend. Alors, s'il y a ce point de vue-là, voyez, si je fais de l'appréhension une opération en soi indivisible, elle est une. Si au contraire, je découvre l'appréhension comme une opération élémentaire que je saisis à l'intérieur du jugement, je vois que comme il y a une quantité, une très grande diversité de jugements, il y a donc une très grande diversité d'appréhension. Je dirais, du fait même que l'appréhension n'est pas une opération première isolée du jugement, mais une opération première saisie dans le jugement, elle est relativisée par le jugement. Et donc, il n'y a aucune impossibilité à ce que cette opération indivisible ait trois niveaux différents. Et saint Thomas a saisi les trois niveaux les plus caractéristiques, les deux extrêmes, et puis l'aspect le plus formel, le plus propre de l'appréhension. L'appréhension saisit l'acuité des choses naturelles. Mais c'est ce qui caractérise l'appréhension. Les deux extrêmes sont déjà quelque chose qui sont bien de l'appréhension, mais qui ne sont pas ce qui caractérise l'appréhension. Ce qui caractérise l'appréhension, c'est de saisir l'acuité. Ce qui caractérise l'appréhension, c'est de nous conduire à la possibilité de la définition. C'est grâce à l'appréhension que nous pouvons définir. Et ceci, c'est aussi important quand on sait que ça a été le grand problème de Socrate. Comment définir ? Comment expliquer la définition ? Avec le pantareil d'Héraclite. Comment définir la définition alors que tout change ? Or, quand je définis quelque chose, je précise quelque chose de fixe. Je précise quelque chose qui est au-delà du devenir. Or, selon mon expérience, tout devient. Tout est dans le devenir, tout coule. Alors, comment expliquer ça ? Alors, on sait très bien les explications que Platon a données, la réminiscence. Alors, vous voyez que l'appréhension m'évite la réminiscence. C'est quand même très intéressant. Si je n'avais pas l'appréhension, il faut expliquer les formes que je saisis. Il faut expliquer la manière dont j'en peux saisir les catégories. faut saisir ce premier contact élémentaire de l'intelligence avec la réalité dans ses déterminations essentielles. D'où position de la réminiscence, pour essayer d'expliquer ça. Il y a des choses que je possède de toute éternité. Alors, comme la réminiscence, on ne peut pas l'accepter, c'est un a priori, il s'agit de découvrir comment mon intelligence a ses premières arêtes, c'est les arêtes de l'intelligence que je saisis en voyant le point de vue du tout confus, le point de vue de l'acuité, le point de vue de la ratio à tous. Donc, j'espère que là, vous voyez bien comment ces trois moments correspondent au jugement d'existence dans ce qu'il a de plus confus. Il y a quelque chose. Le point de vue de l'intelligence qui saisit par l'abstraction universelle la quidité des choses, d'où tous les prédicables. Et puis, le point de vue, ensuite, de l'intelligence dans son ultime induction, l'induction de l'être en acte, d'où elle possède la ratio actus. Et c'est assez beau de voir ça, parce qu'au fond, nous voyons que nous ne pouvions pas poser autrement. Les deux extrêmes de la vie de l'intelligence, c'est il y a et l'induction de l'acte. Les deux extrêmes, au niveau de la structure, hein, pas au niveau de l'extension, mais au niveau de la compréhension. Au niveau de la compréhension de la vie de l'intelligence, les deux extrêmes, c'est l'affirmation « il y a ». Quand j'affirme « il y a », je suis en face d'un mur. Il y a un mur. Je ne peux plus avancer. C'est ce que vous dites. Quand vous êtes coincé, on est coincé, un cul-de-sac, il y a quelque chose qui m'arrête. Je ne peux pas avancer. Donc ça, c'est l'affirmation première. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ça conduirait même, vous voyez, à montrer le bien fondé du noumen kantien. Il y a quelque chose de juste dans Kant. Et c'est très vrai que quand j'affirme « il y a », je ne découvre pas ce quelque chose. J'affirme simplement qu'il existe. Il y a. Donc le tout confus. Le tout confus, c'est le mur vers lequel je me casse la tête. Je m'arrête. Et puis, l'intelligence passe par la connaissance des quidités. Et passant à travers la connaissance des quidités, elle dépasse toute la connaissance des catégories. Et elle arrive au dernier moment de sa vie intellectuelle, le moment où la compréhension est la plus grande. C'est lorsque l'intelligence induit l'induction de l'acte, de l'être en acte. Quand l'intelligence induit l'être en acte, elle appréhende la ratio actus. Et cette appréhension de la ratio actus est ce qu'il y a dans l'ordre de la compréhension, ce qu'il y a de plus profond. C'est là où l'intelligence est la plus pénétrante. Ce n'est pas là où elle est le plus étendue, puisqu'après il y aura l'affirmation « Dieu existe ». Il y aura l'affirmation de tous les attributs de Dieu. Il y aura l'affirmation de tous les jugements de sagesse. Mais au point de vue de la compréhension, c'est là où l'intelligence saisit la plus grande arête. C'est pour ça que si on veut avoir une intelligence percutante et pénétrante, c'est toujours à l'induction de l'acte qu'il faut revenir. Donc on ne perd pas son temps à lire le livre Theta de la métaphysique, parce que c'est là où on aiguise son intelligence pour pénétrer le plus loin possible dans la réalité existante. C'est très curieux, il faut essayer soi-même d'en avoir la conviction, hein, d'en avoir l'évidence de ça, de voir que l'intelligence pénètre dans la réalité par l'induction et non pas par la démonstration, a priori ou a posteriori. La démonstration n'est pas un effort de pénétration, c'est un effort d'extension. C'est très important, il faut ne faut pas dire que c'est pas important. C'est très important, c'est essentiel à ma vie intellectuelle. Mais c'est second. Parce que l'extension est en dépendance de la compréhension. Et c'est dans l'induction de l'acte où la compréhension est la plus grande. Donc, c'est vraiment l'appréhension de la ratio actus qui est le moment de la vie, pour la vie de l'intelligence, le moment le plus pénétrant. Et je ne crois pas qu'on puisse donner un autre tableau que ces trois. Alors, après avoir vu ça, nous revenons au jugement. Parce que vous avez bien compris l'appréhension, n'est-ce pas ? Et qu'ayant bien compris l'appréhension, je peux regarder. Attendez, j'ai toujours un nota bene. Il est intéressant de m'arrêter un instant sur cette ratio actus, étant donné que nous sommes là devant un sommet, pénétration. La ratio actus de ce qui est. Il est important de comprendre, puisque la première opération me met en face des concepts. S'il y a trois niveaux d'appréhension, vous voyez qu'il y a donc trois niveaux du concept. Il y a le niveau du concept confus, que nous pouvons tout savoir en nous réveillant le matin. Le tout confus, on se réveille. Le tout confus. Il y a le concept qui porte sur la cupidité. Ce sont les concepts génériques. Ce sont les concepts spécifiques. Les concepts propres. Ce qu'on appelle dans le langage classique les prédicats. Donc, le concept générique, spécifique, et ainsi de suite. Et puis, il y a les concepts dits analogiques. Vous voyez qu'en donnant les trois niveaux d'appréhension, immédiatement, je peux poser, au plan critique, trois niveaux de concepts. Le concept simple, le concept confus, qui porte sur le tout confus. C'est celui qui permettra les descriptions. Il ne faut pas être trop... Vous savez, on aime bien les clairs-obscurs quand on décrit quelque chose. On peut faire plus d'effets. Alors, il ne faut pas avoir des concepts plus élaborés que les concepts confus pour décrire. Ça va beaucoup mieux. C'est curieux, ça. Mais l'artiste est comme ça. Il n'aime pas le point de vue conceptuel. Alors, il aime mieux être pré-conceptuel. Et le pré-conceptuel, c'est le concept confus. Alors là, je suis en face des clairs-obscurs. Vous comprenez que dans la mesure où le concept est confus, dans cette même mesure, les qualités sensibles sont beaucoup plus manifestées. Quand le concept est trop pénétrant, je suis très loin du sensible. Il faut comprendre ce que c'est que la vie de l'homme, n'est-ce pas ? Ma vie, elle est ou du côté de l'intelligence, ou du côté imaginatif, ou du côté sensible. Alors si mon capital de vie est tout entier vers les concepts analogiques, hein, vous comprenez bien que le côté sensible est très loin. Tandis que si je reste en face d'un concept confus, alors la description est très très forte. Je ne définis pas, j'ai horreur de la définition dans le concept confus. C'est important parce que ça fait partie, vous voyez, au point de vue philosophique, de saisir ce que ça représente, la description des clairs-obscurs, son et lumière, vous savez, c'est tout à fait ça. Alors, ça fait partie des qualités sensibles. Là, il ne faut pas trop sortir du concept confus. Les concepts génériques, spécifiques, m'aboutissent à la définition. Alors là, je suis cartésien. Il faut des choses claires. Pas dire toute obscurité. Il faut des choses claires, très distinctes. Alors c'est le genre et la différence spécifique. Il y a des gens qui veulent uniquement les définitions. Donnez-moi la définition, ça me suffit. Je ne comprends rien, ça n'a pas d'importance. J'ai la définition, je peux passer les examens. Donc ça, c'est Descartes. Descartes passait très bien les examens. C'est du clair, c'est du distinct, c'est des choses très très nettes. Tout est bien qualifié. Et puis, le concept analogique, il est très profond, mais toujours un peu confus. Enfin, ça, c'est très très difficile. Le concept analogique, il est profond, il saisit la profondeur. Vous savez, c'était le père Gardeil, le vieux père Gardeil dans La structure de l'âme, qui est un très beau livre, du reste. Donc, si vous avez le temps, une fois de lire ça, ça vaut la peine. C'est un très très beau livre, La structure de l'âme du père Gardeil. Alors, le père Gardeil, dans sa préface, dit, il y a deux manières d'écrire. Il y a une manière claire et superficielle. Il y a une manière profonde et confuse. Je choisis la seconde. Alors, vous voyez, c'est le concept analogique. Alors, je sais que c'est profond. Ça va dans les profondeurs de l'être. Ça va dans les hauteurs de l'être. Mais c'est toujours un peu confus. C'est difficile. C'est pas commun. Alors, mais c'est pas le concept confus. Le concept confus est confus en fonction de son extériorité. Tandis que celui-ci, il est confus, le concept analogique, il est confus en fonction de sa pénétration. Il aurait pu faire encore une distinction dans le confus. Il y a deux espèces de confus. Il y a le confus pénétrant et le confus qui n'est pas pénétrant. C'est vrai que pour montrer qu'on va loin, il faut souvent être confus. Alors les gens disent, comme ça va loin, c'est confus, on n'y comprend rien. Donc ça doit être très intelligent. C'est-à-dire que si on comprend tout, on dit non. Et ça, c'est, alors ça, c'est des cas. Alors on comprend tout, des définitions. Ça reste au niveau quantitatif. C'est très propre. C'est très très propre. Ça, c'est ce qui est propre. On aime le propre. C'est clair, distinct, précis. Tandis que les concepts analogiques, c'est très difficile. On les saisit, et puis immédiatement après, on ne les saisit plus. Et on ne les possède pas. C'est là la très grosse différence. Ce n'est pas un avoir, un concept analogique. Alors, on est dans un état de réceptivité. On est dans un état de réceptivité. Notre intelligence vit très profondément, mais elle ne possède pas. Très, très mystérieuse. Il y a une pauvreté de l'intelligence qui est là. C'est les concepts analogiques. C'est accepter les concepts analogiques. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on ne les accepte plus. On aime mieux avoir. Ça, c'est l'avoir. Et le concept confus n'est pas un avoir, il est descriptif. Mais on se rapporte, on se ramène alors sur les qualités sensibles, on décrit. Et au fond, là, on saisit bien, parce que l'appréhension nous fait saisir les structures de l'intelligence, la structure profonde de l'intelligence. Et alors, on voit bien ces trois aspects d'intelligence. Il y a des intelligences descriptives, il y a des intelligences faites pour la clarté et la distinction, et des intelligences qui veulent la profondeur. Alors, il faut avoir les trois autant que possible. Hein. Pour être intelligent, il faut mieux avoir les trois. Mais ordinairement, on a quand même une orientation plus ou moins profonde vers le point de vue descriptif, le point de vue, surtout si on est très artiste. Ça ne veut pas dire que l'artiste reste à l'extérieur. Hein. Ça, c'est, alors c'est autre chose. Mais c'est le petit artiste. L'essayiste, le journaliste, il faut écrire à tout prix un article immédiatement. Je reste dans les choses qualitatives, il ne faut surtout pas trop penser, ça ne passera pas. Donc il faut être une chose très descriptive. Si au contraire, alors je pense beaucoup, ben, je sais très bien que si je m'élève très haut, il y en aura moins, ça c'est forcé. Alors ça importe peu, je vais le plus loin possible pour aller le plus loin possible. La vérité elle-même, c'est suffisant. Je ne recherche que ça. Tandis que si je veux que ça passe, concept confus. Et on peut très bien arriver à le comprendre, ça. Parce que c'est à un certain niveau, on sait que ça ne passe plus. Et ça ne peut plus passer. Ça ne passe que dans des cercles restreints. Bon, alors, si vous voyez ça, c'est pour comprendre que les trois degrés d'appréhension nous donnent les trois niveaux de concept. Et il y a bien trois niveaux de concept. Alors on dira ici, ce concept est univoque. Je dis ça, on le reverra en logique. Celui-ci est analogique. Et celui-ci est descriptif. Un concept descriptif qui est toujours lié à l'imagination, toujours lié à la représentation. Alors maintenant, passons, après ce nota bene, qui est intéressant parce qu'il nous aide à mieux comprendre ce que c'est que le concept et la diversité de nos concepts, regardons maintenant, si vous voulez bien, ce que c'est que le jugement. Nous l'avions déjà vu au point de départ, mais nous y revenons pour l'analyser. L'analyser au niveau proprement critique. Qu'est-ce que c'est le jugement? Comment comprendre le jugement? Alors, première observation qu'on doit faire, c'est que le mot judicium, latin, vient de l'aspect juridique. La langue latine est une langue juridique. En grec, krinein, discerner. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien que pour juger, il faut toujours discerner. Mais vous voyez, le discernement est plus fondamental que de porter une sentence. Le jugement, c'est porter une sentence. Mais porter une sentence, c'est assez extérieur. Il y a quelque chose avant, antérieur à porter la sentence, c'est justement le discernement. Eh bien, le propre du jugement, moi je crois qu'il faut dire que le propre du jugement, c'est le discernement. On essaiera de comprendre les différents éléments du jugement et les ordonner. Parce que le jugement est un axe complexe, à la différence de l'appréhension qui est simple. C'est un axe complexe. Il s'exprime toujours au moins dans deux termes. Ceci est. Il y a toujours au moins deux termes. Il y en a quelquefois plus, puisque vous pouvez dire « Pierre est intelligent ». Alors à ce moment-là, il y en a trois. Et la plupart des jugements en ont trois. Donc si vous mettez « Pierre est intelligent », vous avez trois. Et pour bien montrer que ces trois se ramènent à deux, on dira que « est simplement ce qui va coller les deux extrêmes et qui va permettre de coller les deux extrêmes. Alors vous direz que est et c'est la copule qui unit les deux. Alors vous avez le nom, vous avez le verbe et vous avez l'attribution. L'attribut. Donc je vois tout de suite que le jugement est complexe. C'est facile à comprendre. Le jugement est complexe. C'est pour ça que je ne pouvais pas m'arrêter au jugement. J'étais obligé d'aller plus loin et d'aller à l'appréhension. Je peux me poser maintenant tout de suite la question, quand je suis en face de ce jugement, ceci est, c'est le jugement le plus simple, ceci est. Ou il y a quelque chose. Mais vous voyez, il y a quelque chose, c'est déjà un peu plus complexe. Le plus simple, c'est ceci est. Pierre est intelligent. Pierre est fou. Au point de vue du jugement, Pierre est un âne. On peut se dire que ça arrive de temps en temps, n'est-ce pas? Alors, c'est le jugement est complexe. Il implique deux ou trois. Alors, la grosse question première qu'il faut comprendre, c'est que j'ai posé une opération élémentaire. Simple. Un seul concept de cette opération élémentaire. Le jugement, lui, au contraire, implique nécessairement deux termes, ou trois termes. Est-ce que le jugement implique simplement une composition 1 plus 1 égale 2? Donc, simplement une composition de ce que représente l'appréhension, opération élémentaire, simple, et simplement une addition. Ceci a été soutenu, c'est pour ça que je le dis, parce que ça a été soutenu, Ça a été soutenu par Occam, notre cher Occam. Notre cher Occam a dit ça. Et comme Occam a joué un très très grand rôle dans la philosophie, beaucoup plus qu'on ne le pense, si on le regardait attentivement, on verrait qu'il y a des quantités d'Occamiens qui sont aujourd'hui et qui croient dire des choses originales, et qui disent des choses tout simplement qui ont été soutenues au XIVe siècle. Ils ont oublié leur grand-père. Et leur grand-père, c'était Occam. Occam a dit des choses très originales pour son temps. Il les a dit. Et alors, pour Occam, le point de vue du jugement n'est pas autre chose que l'addition des deux. Très curieux, ça. C'est très intéressant à voir ça. C'est l'addition des deux. Alors, à ce moment-là, on ne voit plus que le jugement implique une opération propre. On ne voit plus que le jugement a un contact particulier avec la réalité que n'a pas l'appréhension. On essaiera de comprendre ça. Je le dis tout de suite parce que c'est important tout de suite d'éliminer un gros obstacle. Parce que facilement, quand on voit l'appréhension en premier lieu, on voit le jugement tout simplement comme une addition. Il y a une composition, il y a une addition. Il y a une addition ou il y a une soustraction. En disant, ceci n'est pas. Donc je supprime est du ceci. Je soustrais. Alors, ceci, si je fais ça, vous voyez, le jugement va être tout simplement vu dans le prolongement de l'appréhension. C'est un prolongement, j'additionne. Et je ne saisis plus ce qui caractérise en propre le jugement. Je ne vois plus que le jugement a un contact particulier avec la réalité que n'a pas l'appréhension. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de saisir pour comprendre le caractère propre du jugement. Mais c'est sûr que c'est intéressant de voir cette possibilité, on y reviendra, voir que le jugement n'est pas cette espèce d'addition. Et voir ça, c'est uniquement du côté de l'extension. Mais on ne voit plus le point de vue de la compréhension des termes. On ne regarde plus que l'addition, l'extension, c'est tout. Bon, ceci étant dit, je peux essayer de comprendre maintenant que le jugement m'apparaît donc comme une opération propre, distincte de l'appréhension. Et c'est la première chose que je dois voir. Que le jugement a quelque chose d'original, que l'appréhension n'explique pas. Et pour cela, je vois tout de suite que si j'analyse ce qu'exprime le jugement, ceci est, je vois un nom et un verbe. Or, le nom et le verbe n'apparaissent pas dans l'appréhension. L'appréhension ne saisit pas le nom. L'appréhension ne saisit pas le verbe. L'appréhension saisit la quiddité, nous l'avons dit. Même quand l'appréhension saisit un tout confus, ce n'est pas un nom. C'est un tout confus, il y a, c'est tout. Ce n'est pas au sens strict un nom. Alors, quelle différence y a-t-il entre la quiddité des réalités sensibles? Le to, ti, en, einan, des réalités sensibles, je vous le rappelle de temps en temps, hein, pour que ne vous arrêtez pas à quiddité, parce que quiddité, ça ne signifie rien du tout. Tandis que to, ti, en, einan, ça signifie quelque chose. N'est-ce pas? Le ti, en, le to, einan. Ou dans le to, einan, le ti, en. Saisir ce que représente cette interrogation, cette saisie. Ce nœud intelligible de la réalité existante. Il s'agit de saisir le nœud d'intelligibilité, l'intelligibilité la plus profonde, l'intelligibilité la plus caractéristique de de cette réalité existante, ce qui demeure dans cette réalité existante, ce qui en donne sa signification. Le Totien Neinang donne la signification de la chose. Et ça me permet de saisir la signification profonde de la chose, ce qu'elle est. Si je l'interroge, qu'est-ce qu'elle est ? Alors je saisis sa signification radicale qui demeure à travers toutes les choses. C'est ça l'acuité. Eh bien, l'acuité, donc, donne la signification. Le nom, c'est autre chose. Le nom, ce n'est pas le problème de la signification. Le nom, c'est le problème du sujet capable d'exister, ceci est. Pierre existe. Le nom, c'est ce qui est capable de recevoir des attributions. Pierre est intelligent. Pierre marche. Vous voyez, le nom exprime une autre... Dans le nom, tout simplement, vous n'avez qu'à réfléchir sur le nom. Sur le nom, ce n'est pas en premier lieu la signification. Alors, je peux dire, Pierre est un homme. Alors à ce moment-là, j'exprime la signification de Pierre. Il est un homme, il n'est pas un chat. Il est un homme. Mais quand j'exprime le nom, la signification est impliquée dedans. Mais il y a quelque chose de plus. J'exprime qu'il y a une certaine autonomie, qu'il y a une certaine capacité de recevoir d'autres déterminations, qu'il a une capacité d'agir, qu'il est comme un noyau auquel toutes les autres attributions viennent se greffer, qu'il est capable d'unifier une quantité d'attributions. Je peux dire Pierre est grand, Pierre est intelligent, Pierre a tel âge, Pierre a tel poids, ainsi de suite. C'est Pierre qui unit tout ça. Donc il est capable d'unir toutes ces quantités de choses. C'est un centre d'unification. Le sujet, c'est ça. Le sujet est capable de ramener à lui une quantité de significations diverses, une quantité de déterminations diverses, alors que l'acuité ne le fait pas. L'acuité intelligente ne comprend pas 100 kilos, ne comprend pas les qualités, ça les distingue tout de suite. Le sujet les rassemble. C'est très curieux ça, de bien comprendre ce que représente le nom, qui est sujet des attributions, sujet des réalités. Quel passage y a-t-il entre Pierre et l'acuité homme ? Aristote disait substance première, substance seconde. Oui, c'est un mot, c'est très très bien. Mais quelle différence y a-t-il entre la substance première ? Ah, la substance première n'est pas une catégorie. Elle sous-tend toutes les catégories. Et toutes les catégories peuvent être attribuées à la substance première. La substance seconde, c'est une catégorie. C'est la première des catégories. Mais la substance première, non. Or, Pierre, c'est le sujet, c'est le nom. Il y a donc une nouvelle connaissance. Il y a une nouvelle connaissance entre homme et Pierre. Et c'est cette nouvelle connaissance qui se réalise dans le jugement et non pas dans l'appréhension. Je n'arriverai jamais à appréhender Pierre. Ce que les scolastiques disaient en disant « l'individu, il est ineffable ». Qu'est-ce que ça voulait dire ? Je donne ma langue au chat au point de vue de l'appréhension. L'appréhension n'arrivera jamais à saisir Pierre. Je ne pourrai jamais saisir Pierre par l'appréhension. Impossible. Je ne peux pas ramener Pierre à une catégorie. Pierre est autre chose. Il faut être au calme pour croire que l'individu est un assemblage de déterminations et de catégories. C'est propre de Kant, ça. Un assemblage. Quelle différence y a-t-il entre un individu et un autre ? C'est que l'un a des cheveux un peu plus longs que l'autre. Tout simplement. L'un est un peu plus gros, pèse un peu plus. L'un est un peu plus intelligent, et ainsi de suite. Alors je donne des assemblages. Vous voyez, un assemblage de catégories, de qualités. Mais ça ne détermine pas profondément et substantiellement ce qu'il y a d'unique en chacun. Eh bien, de fait, seul le jugement, alors il faudra voir comment, hein, seul le jugement va me permettre de saisir la substance première. Il faut une nouvelle opération pour saisir la substance première. Ah, alors, comme cette nouvelle opération, qui est le jugement, implique le point de vue du nom et du verbe, est-ce que c'est le nom qui me fait connaître le verbe, ou est-ce que c'est le verbe qui me fait connaître le nom ? Parce que le petit raisonnement que je viens de faire, en voyant que le nom ne peut pas se ramener à l'acuité, je peux le faire du côté du verbe. Le verbe n'est pas une catégorie. Le verbe ne peut pas s'expliquer par le point de vue quiditatif. Le verbe n'a pas comme rôle principal de me donner une signification. Le verbe est en dehors des catégories, en dehors des quidités. Je ne peux pas ramener le verbe à une quidité. Vous n'avez qu'à réfléchir, Pierre marche. Alors vous allez me dire, ah oui, mais marche, oui, mais il y a une action et il y a une passion. Ah oui, mais attention, marcher est autre chose que la passion et l'action. C'est l'exercice de la passion et de l'action. Et cet exercice, c'est le verbe qui exprime cela. Vous voyez, je dis qui exprime cela, plus que signifier. Le devenir s'exprime par le verbe. L'action dans son exercice s'exprime par le verbe. Et je suis là dans un domaine qui n'est plus strictement un domaine de la signification. Ça domaine de l'expression. Je crois qu'il faut faire la distinction entre les deux. C'est très délicat. C'est très très délicat. Mais il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas directement la signification. Ce n'est pas directement. Et alors quand je suis en face du verbe être, ça éclate. Quelle est la signification du verbe être ? Très difficile. Puisque la vache existe, Pierre existe, et l'existence de la vache ne supprime rien de ses déterminations propres, comme l'existence de Pierre n'enlève rien de ses déterminations propres. Donc je suis dans un ordre qui n'est plus l'ordre de la signification. Je suis en face de quelque chose de tout à fait particulier. Alors ça, c'est très curieux de voir que si j'étudie le jugement dans ce qu'il a de plus simple, ceci est, je suis tout de suite au-delà de l'aspect quiditatif. Puisque le nom est au-delà des catégories et que le verbe est au-delà des catégories. Je suis donc en face de quelque chose de tout à fait particulier, propre au jugement, sui generis au jugement, que le jugement seul peut saisir le verbe et le nom. Il y a donc une nouvelle compréhension de la réalité qui se fait par le jugement. Et une compréhension qualitative, ce n'est pas uniquement de la quantité. J'ai beau additionner l'équidité, je ne rejoindrai jamais le nom. J'ai beau additionner l'équidité, je ne rejoindrai jamais le verbe. Il y a donc dans le nom et le verbe quelque chose de tout à fait particulier, qui est unique, et qui s'exprime dans le jugement, et qui est saisi par le jugement. On va essayer de comprendre ça progressivement. C'est très important, au moins au point de départ, de comprendre que je ne peux pas ramener le jugement à une addition d'appréhension. On n'y pense pas assez, vous voyez. On n'y pense pas assez à ça, parce qu'on est terriblement dans la logique, et dans une logique occamienne. Parce que c'est ça le problème de la logique d'Occam, c'est de tout ramener à l'appréhension. Et je me demande si dans certaines perspectives d'aujourd'hui, si on les analysait bien, on ne rejoindrait pas exactement ce qu'a dit Occam. Ce n'est pas un progrès, c'est une régression. Une régression par rapport à la pensée. On est retourné au XIVe siècle. Le XIVe siècle, ce n'est pas tellement un siècle inventif. C'est très curieux, c'est la dégringolade. point de vue architecture, c'est net. C'est une dégringolade. Alors, ça exprime quelque chose. C'est quand même... Il y a des choses belles dans la dégringolade, comme toujours, toujours. Parce qu'il y a toujours l'homme derrière. Même quand il dégringole, il est encore un homme. Alors, il est au-dessus de la dégringolade. Et il peut exprimer à certains moments des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Ça, c'est sûr. Des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Mais c'est très curieux de voir ça. De voir que, de fait, le jugement saisit autre chose que le domaine des quidités. Ceci est le nom et le verbe. Le nom et le verbe. Bon. Si le nom et le verbe sont au-dessus des quidités, je peux me demander, est-ce que c'est le verbe qui fait saisir le nom ou est-ce que c'est le nom qui fait saisir le verbe? Ça, c'est une très grave question, au point de vue critique. C'est pas commode de comprendre ça. Je veux dire, ils sont connus simultanément. Non, jamais. C'est impossible. Est-ce que c'est... Oui, c'est comme le poisson qui est pris par l'hameçon. Est-ce que c'est l'hameçon qui est premier ou est-ce que c'est le poisson qui est premier? Alors, ils sont relatifs l'un à l'autre. Alors, je peux me demander, est-ce que c'est le verbe qui fait comprendre le nom ou est-ce que c'est le nom qui fait comprendre le verbe? C'est une question très difficile, on ne la pose jamais. Moi je ne l'ai jamais vu qu'elle est posée. Alors, ça m'intéresse de savoir ça, parce qu'il y a une composition entre les deux. Et il y a une unité entre les deux. Alors, comment ça va se faire, l'unité? Alors, regardons un petit peu... La dualité du jugement, ça va peut-être vous éclairer un peu, ça. Ça va peut-être vous éclairer. C'est que l'affirmation, ceci est tout de suite accompagnée de la négation. Ceci n'est pas. Ça, c'est intéressant, parce que c'est propre au jugement aussi. Si c'est propre au jugement, ça va peut-être me manifester quelque chose du jugement. Au niveau quiditatif, il n'y a pas affirmation et négation, puisqu'il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de négation. Tandis que dès que je suis en face de l'affirmation, je suis obligé tout de suite de montrer aussi la négation. Alors, est-ce que c'est la négation qui explique l'affirmation, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est aussi une question très importante. Vous voyez, parce que j'ai donc le nom, le verbe, et j'ai la négation qui vient s'ajouter au nom et au verbe. Bon. Réfléchissons là-dessus. Très bien. Pourquoi?
Oui. Regardez ce qu'il dit ici.
Le candidat dont la mémoire a été acceptée peut se présenter à l'épreuve écrite. Celle-ci précède immédiatement les épreuves orales. Oui, je sais.
Ah oui, alors c'est après.
L'épreuve écrite consiste en un travail à huis clos. Je sais, mais si on veut. Oui. Oui, c'est pas la même chose du tout.
Oui, c'est ça. Alors, il faudra que je fasse ça en plus du travail de séminaire.
Parce que ça, c'est autre chose. Alors, est-ce qu'ils vont l'exiger? C'est possible. L'épreuve écrite consiste en un travail huis clos dans l'une des deux branches secondaires au choix du candidat. 4 heures.